RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, vous donnent la parole en direct au 32-16 sur RMC, la radio et RMC Story, la télé. Avec aujourd'hui l'éducateur Abel Boyi, avec Antoine Diers, le consultant, et avec Barbara Lefebvre, la professeure d'histoire-géographie. 10h30, périscolaire, violence dans les établissements scolaires. Faut-il mettre des caméras dans les écoles? Ça va être une proposition qui va être faite aujourd'hui par l'opposition, par Rachida Dati au Conseil de Paris. Est-ce qu'on doit réfléchir à mettre des caméras effectivement dans les couloirs, pourquoi pas, dans certains coins, lieux sensibles où se retrouvent les enfants. 32-16 pour en discuter avec les GG. D'abord, on va commencer par parler carburant. On va commencer par parler carburant parce que avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, la tension autour du marché pétrolier est toujours forte, toujours vive. Du coup, il y a des pays d'Europe, nos voisins qui prennent des mesures, il n'y a qu'un pays pour le moment qui ne bouge pas, qui fait des aides très ciblées, c'est la France.
Déjà, ceux qui nous dirigent devraient arrêter de faire des prévisions sur les prix à la pompe, parce qu'ils se trompent depuis le début. Souvenez-vous, au tout début de la crise, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, nous avait expliqué « Non, ça sera quelques centimes d'euros supplémentaires. » Bon, on va jusqu'à 60, voire 70 centimes de plus à la pompe. Là, il y a quelques jours, le gouvernement, depuis que le cessez-le-feu a été signé entre les États-Unis et l'Iran, nous avait dit « Vous allez voir, ça va baisser 5 à 10 centimes de baisse attendue dans les 48 heures. » Bon, eh bien en fait, les experts nous disent que les prix à la pompe ont reculé en France de 1 centime en moyenne depuis la conclusion du cessez-le-feu. Donc laissons, Madame Maud Bréjon et les autres, ne faites plus de prévisions. En revanche, sur les ristournes, là, le gouvernement se tait parce que l'Allemagne vient de réduire pendant 2 mois une taxe sur les produits pétroliers à hauteur d'environ 17 centimes par litre, une mesure qui certes va coûter 1,6 milliard d'euros aux finances publiques, mais que les Allemands assument. L'Espagne a fait de même, l'Italie a fait de même, la France est en train de devenir le seul pays européen à ne pas proposer une ristourne fiscale sur les carburants, alors que je rappelle, nous payons essentiellement des taxes et des impôts sur le carburant aux alentours de 60%.
Antoine ? Mais quand j'ai vu ce que l'Allemagne allait faire, je me suis dit, on a exactement la même chose chez nous en France. On a une taxe de contribution au certificat d'économie d'énergie ou je sais plus quoi, qui doit représenter 10 à 15 centimes par litre, qui est une taxe écolo, la même que l'Allemagne va retirer. Et donc là, on a peut-être le début d'une solution, c'est que cette taxe ne vient pas abonder le budget de l'État.
Non, c'est pas dans le budget.
On sait qu'il n'y a plus une thune sur le budget de l'État.
Sans pouvoir suspendre ce certificat.
Et donc, je me dis, oui, suspendons temporairement, même si moi je pense que ça n'aurait jamais dû exister, mais suspendons temporairement cette taxe pour les certificats d'économie d'énergie. Voilà, là il y aurait un geste.
Et pourquoi il ne le fait pas ce geste, le gouvernement ? Qu'est-ce qu'il attend ?
Car la France a un veau d'or. A une chose sacrée en France, la taxe. C'est-à-dire qu'il faudra tout sacrifier jusqu'à la dernière godasse du dernier Français, du dernier boulanger qui n'aura pas pu ouvrir le 1er mai. Il faudra sacrifier ça plutôt que de baisser une taxe et enlever une taxe. Ça, vous pouvez pas. C'est sacré. C'est vraiment la vache sacrée. On ne peut pas. Pendant ce temps, la charge de la dette. En 2025, la charge de la dette, c'était 52 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près le budget de l'éducation nationale.
Plus on taxe, plus on est endetté. C'est
2026, on est entre 60 milliards et 74 milliards de charge de la dette.
Et on annonce 100 milliards à 2030.
Voilà, on explose tout. Ah, vraiment, moi je dis bravo, bravo. On a vraiment été gouvernés par des gens extraordinaires. C'est pour ça que tu t'étonnais que Madame Bréjon dise un truc le lundi, un autre le mardi, un autre le mercredi. Mais ils font ça depuis 2017.
Oui, moi je garde une fraîcheur d'esprit.
Oui, mais moi ça ne m'a pas échappé.
Je m'étonne.
Oui, moi ça m'a pas échappé qu'ils font ça depuis 2017. Et donc depuis 2017, je hurle parce que je vois où on va. C'est même plus le mur, c'est que ça y est, c'est fini, on est craché. Et le reste de l'Europe essaye tant bien que mal.
Mais l'Allemagne gère mieux que nous ses finances publiques. Donc c'est pour ça que l'Allemagne
peut
aujourd'hui se permettre.
Oui, mais bon, et elle a une baisse de croissance.
Oui, mais elle a moins de dettes.
Non, c'est l'Allemagne, c'est le déficit budgétaire.
Oui, mais l'Italie a plus de dettes que nous, mais s'en sort mieux et plus crédible, arrive à faire des remises sur les carburants.
Et si on se base toujours sur l'argument de la dette publique, on va rien faire. Ben, laissons les Français crever. Moi, j'en ai marre de cette classe politique qui est lâche, qui fait des prévisions. Ils se prennent pour Nostradamus, ils finissent comme Paco Rabanne. À toutes les prévisions, c'est une catastrophe. Et en réalité, il est trop tard, on s'est déjà fait enfler. Les gilets jaunes, ils sortent pourquoi? Parce que l'essence est à 1,50€. Ils montent jusqu'à 1,60, 1,80. Après, on se dit, ah, ben, ça va baisser. On s'habitue au 1,50. On se dit, ah, ben, on est revenu à 1,50. Là, on est à 2,30. Moi, j'ai dit la dernière fois.
Sans doute jusqu'à l'été, hein.
Je paye 2,50. Mais vous allez voir. Ils vont peut-être, même s'ils baissent demain, 15, 20 centimes.
1,90.
On est déjà habitué à 1,90, 2 euros. On s'est fait enfler par
bien
ce
sûr,
gouvernement.
Bien sûr.
Tout à l'heure, il y a un auditeur qui disait qu'il a voté deux fois Macron et que malheureusement, il boite. Tous les Français vont boiter maintenant, hein. Et on va boiter pour les 30 prochaines années. On s'est fait avoir, c'est trop tard, malheureusement.
Après, c'est pas eux qui fixent. Le
oui,
prix,
c'est le marché mondial, voilà, on le connaît marché. Ce truc, c'est le marché mondial.
Non, mais tu as raison. Mais Abel, tu as raison sur un point. Quelle est la tactique pour acheter la docilité des Français? C'est la saturation. Saturation sémantique, saturation psychologique, saturation procédurale. Mm-hmm. C'est la marque de fabrique de la Macronie. On vous sature d'infos, on vous sature de normes, on vous sature de mots vides et creux, on vous sature de grands débats. Allez, dormez, petits enfants. Dodo, c'est la grande hypnose générale. Et voilà, tout
aujourd'hui,
le monde dort
le
et tout le monde se laisse faire. Et tu verras qu'à 1,90, ils diront merci
ben oui,
Macron. 1,90,
mais tout à l'heure,
merci.
Antoine, tu proposais la désobéissance civile à un auditeur. Olivier, tu aurais pu rajouter l'Irlande sur ta liste. L'Irlande
oui,
a cédé parce qu'il y a eu des manifestations monstres, justement.
Ben pourquoi il n'y a pas de manifestation? Alors, tiens, je vous pose la question.
Ah, oui, oui.
Parce que tout à l'heure, nous avions notre ami Boulanger qui nous disait qu'il y avait peut-être un mouvement qui se mettait en place avec les marins pêcheurs, les taxis, etc. Mais justement, pourquoi finalement il n'y a pas de manifestation? Pourquoi personne descend dans la rue?
Alors,
peut-être parce que.
C'est en Corse que ça se passe, là, qu'il y a des blocus.
Il y a des blocus en Corse.
Ouais.
Mais c'est vrai que les syndicats ne sont pas sur ce sujet. Finalement, on accepte.
Et oui, parce que c'est le grand cinéma de tout le monde. Même les syndicats, même la CGT, etc. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait trop de monde dans la rue. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait trop de désordre. Tout ça, ça ne les arrange pas. Donc en fait, c'est une espèce de concours général pour permettre aux Français de continuer à subir. Et c'est la docilité. Moi, je l'ai déjà dit ici et je l'assume. Il y a eu quelque chose qui s'est passé mentalement dans l'esprit des Français et dans l'esprit, je veux dire, individuellement, c'est le Covid. C'est-à-dire que quand vous avez été prêt à accepter tout ce qu'on a accepté de choses qui étaient complètement absurdes, surtout dans la deuxième phase du Covid, les passes sanitaires, le délire normatif absolu, si vous êtes capable d'avoir accepté ça, vous êtes capable de tout accepter. Les Français, ils ont été décérébrés à partir de ce moment-là et maintenant, ils descendront plus dans la rue pour vraiment se révolter ou alors il y aura du sang dans les rues.
Il y a peut-être juste qu'on est aussi à un an de l'élection présidentielle, élection majeure dans notre pays, et donc peut-être que les gens se disent, allez, un an pour le changement. Alors, j'espère qu'ils seront pas déçus. Moi, je crains qu'ils soient déçus.
Oui, mais attends, hein.
Même, moi, je crois même pas ça.
Moi, je pense que les gens attendent quand même.
Moi, je pense que non, ça va plus loin. Et c'est plus grave, c'est que les Français pensent que ça ne changera
foutu.
Rien.
Jamais.
C'est pas avec les politiques que la vie changera.
Regarde,
on l'a pas suffisamment dit, mais au municipal, le taux d'abstention a été très important. C'est l'un des taux les plus forts pour une municipale, à part le Covid. Le Covid, on a fait peur aux gens.
Mais c'est pas la politique qui change la vie des gens.
Même au municipal, alors que le maire, c'est l'élu préféré des Français, les gens ne se déplacent plus. Moi, je pense que beaucoup de gens sont résignés, ne croient plus justement au changement politique.
C'est le résultat d'un très long travail, la résignation. Ça a commencé en 2005, quand on leur a dit chaque étape, de cette longue résignation. Quand j'entends des gens dire oui, il y a une crise démocratique, les Français ne s'intéressent plus, mais parce qu'on les y a progressivement préparé, résignez-vous, habituez-vous, l'Europe gouverne à votre place.
Ça va au-delà de ça. Je pense que les gens ont compris qu'aujourd'hui, la politique, malheureusement, ne changeait pas grand-chose dans leur vie. Ce qui change la vie, c'est des grandes entreprises qui vont inventer de nouvelles choses,
des innovations.
L'intelligence artificielle va plus changer nos vies.
La politique, elle peut changer la vie si la France a été souveraine. C'est que la France n'est plus souveraine, c'est pour ça que la politique
l'intelligence artificielle va plus changer nos vies dans les années à venir que Sébastien Lecornu, Édouard Philippe ou mais aujourd'hui, qui dit Jean-Luc Mélenchon, voilà. Mais c'est une réalité. Google a plus fait pour changer nos vies que tous les politiques précédents.
Oui, mais on te laisse plus d'argent dans ta poche, ta vie est très différente. Hein. Donc le sujet de l'impôt, il est bien politique et ça changerait tout pour les gens.
Sébastien, qui est agriculteur du côté du Nord, est avec nous à Inchy. J'espère que je le prononce bien. Inchy. Bonjour Sébastien.
Bonjour les grandes gueules et bonjour la France profonde, comme dirait notre ami Giraud.
L'ami Giraud qui sera là avec nous demain, notre agriculteur de Saône-et-Loire. Donc la France qui ne fait pas de ristourne sur le carburant, qu'est-ce que vous en pensez?
Je trouve que c'est un scandale parce que, moi je vais parler en tant qu'agriculteur, au niveau carburant, c'est vrai qu'un tracteur ça consomme quand même assez bien par rapport à une voiture. On est en plein période de travaux des champs, donc de semis, de préparation, de récolte d'herbe, tout ça. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on consomme pas mal. Et la dernière fois que j'ai rempli les cuves, on était à 75 centimes du litre, donc du GNR détaxé. Aujourd'hui, si je remplis la cuve, c'est 1,50 €.
Wow. Donc, il est détaxé, rappelons-le.
Et ça vous fait une addition à combien du coup alors?
La cuve fait 2000 litres et...
Donc, 1500 maintenant.
Voilà, ouais. Alors 1500. Que, 1500 pour les 1000 litres, 3000 pour les 2000, alors que la dernière fois, 1500, j'avais mes 2000 litres. Quoi.
Et le prix du litre de lait, il a doublé, lui? Non.
Mais c'est ça le...
Et divisé par deux, lui, par contre.
Et c'est ça le problème, c'est que pour les agriculteurs, aujourd'hui, si tu veux rester compétitif, ou pour les chefs d'entreprise dans le bâtiment, si tu veux continuer à pouvoir proposer des devis aux clients pour être sûr de remporter le marché, tu répercutes pas sur les prix.
Parce que
le prix
du lait baisse pendant que le carburant augmente.
Donc, et Sébastien, vous êtes toujours avec nous? On a perdu Sébastien. La seule chose, c'est
on
que
a bien alors compris la démonstration.
Il faut se méfier bien sûr des experts pétroliers puisque toute la situation peut bouger d'une semaine à l'autre. Ça peut s'embraser comme peut-être d'un coup se calmer puisqu'on nous dit que les négociations peuvent reprendre là à tout moment entre les Américains et l'Iran. Sauf que tout le monde est d'accord et là ça rejoint un peu ce que vous disiez pour dire qu'un des carburants à 2 €, on va les avoir jusqu'à l'été. Le carburant à 2 €. Et donc ça ne baissera pas. Donc
mais ça, c'est bizarre, parce que je comprends pas. Si tout d'un coup, il y a un semblant d'accord et que ça se calme, ou que les détroits d'Ormuz est rouvert, je vois pas pourquoi il faudrait attendre le mois de juillet pour que ça baisse.
On restera aux alentours des 1,90
parce que la guerre est
un
bon business. Faut gagner de l'argent,
mais là,
tout simplement.
Ce serait pas normal.
Mais au début, que nous a dit le gouvernement, même on a eu des experts au tout début sur le plateau. Oh, mais non, il y aura pas de plus-value. Limite, les Français qui font la queue, qui se ruent sur les stations-service. Il y a même un expert dont j'ai oublié le nom. Il rigolait, mais non, mais ça sert à rien. Après, on découvre qu'il y a 235 millions. Donc, au début, c'est pour électrifier le pays. Après, finalement, non, on ne comprend plus rien. Et quand tu discutes avec un certain nombre de personnes, que pensent un certain nombre de Français? Qu'en fait, ça serait peut-être organisé pour nous pousser à aller tous vers l'électrique en réalité. Mais en même temps, on sait que le système français n'est pas prêt pour le tout électrique aujourd'hui.
On en est loin. Donc, on n'est pas à 100%.
Oui, mais après, faut pas s'étonner. Quand il y a du mensonge politique, de la manipulation, le complotisme, c'est quoi? C'est le fils illégitime.
Oui, mais du mensonge politique. C'est ça.
Non, mais les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça n'a pas commencé avec Trump. Les États-Unis ont été plus intelligents que nous. Déjà, ils ont Tesla comme base pour éviter que les véhicules chinois n'envahissent les États-Unis.
Du pétrole.
Oui, mais ils ont Tesla et Biden a pu augmenter les droits de douane de 100% sur les véhicules chinois pour que les véhicules chinois n'envahissent pas le marché américain, ce qu'on est incapable de faire aujourd'hui.
Et puis je rappellerai quand même que la Chine, elle a pris le tournant de la voiture électrique en 2010.
Oui, voilà.
D'accord, et qu'ils ont eu 230 milliards d'aides de leur gouvernement pour l'injecter dans l'industrie automobile et qu'aujourd'hui de toute façon, les Chinois, c'est les leaders sur tout ce qui est la grosse valeur de la voiture, c'est les logiciels, les systèmes connectés et les fonctions automatisées. Donc en fait, nous en France, on en est encore à se demander comment on va fabriquer des bonnes voitures électriques qui soient rentables. Les Chinois et les Américains, parce que les Américains, ils ont compris, ils suivent les Chinois et ils se disent voilà, vite, il faut qu'on se mette à la page parce que c'est notre principal concurrent. Nous, on regarde les trains passer et on se dit on va faire des voitures électriques.
On en fait.
Les Chinois, ils en font depuis 2010 et ils sont déjà en avance. On fait de la haute gamme et de la moyenne gamme.
Pendant très longtemps, malheureusement, là, on a proposé des bonus qui ont surtout profité effectivement
aux marques étrangères. Les Chinois, ils font de tout. Et moi, j'ai des amis qui vivent en Chine, des expatriés qui vivent en Chine. Ça fait déjà plus de 10 ans que la Chine, elle est complètement électrifiée. Quand vous avez vous avez même en Chine, il commence à y avoir des voitures avec des batteries que tu peux retirer. Et que on te remet ta batterie en l'espace de quelques heures. C'est tac, tac, comme des systèmes automatiques. Je vais vous dire, ils sont en avance. Mais vous avez même pas idée à quel point ils sont en avance. Nous, on est là, dans notre petit monde, le monde d'Ursula. Eh ben, je peux vous dire que la Chine, elle va nous bouffer. Et les Américains aussi nous boufferont. Parce que les Américains, ils ont pas envie de se faire bouffer par les Chinois. Et nous, on va regarder les vaches passer.
On a Emmanuel. Emmanuel veut intervenir au 32-16. Il est chef d'entreprise du côté du Rhône. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour à tous. Bonjour.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites, vous, que le gouvernement tienne bon? Alors, on n'a pas les moyens non plus de faire des chèques. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, mais on tient bon. Le gouvernement tient bon. Non, le gouvernement tient bon. Je pense qu'il joue la montre, mais à un moment, ça va plus pouvoir durer. Même si je pense que, je suis désolé, hein, je vais être vulgaire, mais je pense que les Français ont perdu leur couille il y a pas longtemps. Les Français, on était le fer de lance de la révolte, de la contestation pendant des années. Maintenant, c'est les Irlandais, a priori, qui sont devenus meilleurs que nous. Mais je pense que depuis les Gilets jaunes et depuis qu'on s'est fait taper sur la tête, les gens n'osent plus sortir. Mais à un moment, les autres pays lâchent petit à petit, commencent à aider les gens. Nous, je vois pas comment on va pouvoir tenir. Moi, je suis intervenu il y a pas longtemps parce que c'était chez Estelle Midi où je disais que je gagnais 1 200 €. Je suis chef d'entreprise en création d'entreprise depuis pas longtemps. Je gagne 1 200 € par mois. Je viens de mettre 20 € de gasoil parce que je peux pas mettre plus. Je vais pas faire beaucoup en attendant ma carte totale parce qu'à priori on a des avantages que je savais pas. Mais je vois pas comment je vais pouvoir tenir ma boîte. Ça fait même pas un an que je l'ai lancée. Bon, ça arrive un peu au mauvais moment, mais je pense que je vais mettre la clé sous la porte. Hein, je vous dis très sincèrement. Hein.
Vous avez beaucoup de salariés?
Non. Alors pour le moment, je suis tout seul.
D'accord.
Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas les moyens d'acheter une voiture électrique, même avec toutes les aides.
Même avec un leasing aujourd'hui, vous ne pouvez pas, non?
Non. Le problème, c'est que le leasing social, vous avez un nombre de kilomètres limité.
C'est vrai.
Et le problème, c'est que si vous dépassez le nombre de kilomètres, vous rentrez plus dans les clous. Avec toutes les aides, moi je veux bien qu'ils mobilisent toutes les aides du monde, mais personnellement, je vais vous dire, moi je suis à moins 800 € tous les mois, ma femme elle gagne 1 500 € par mois, vous voulez qu'on fasse comment, nous les gens comme nous?
Ouais.
Vous voulez qu'on fasse comment? C'est impossible, on n'arrive pas à mettre 20 balles de côté par mois.
Ouais, vous alors, pouvez des, pas des vous gens, passer de la voiture en plus, quoi.
Non, j'habite à la campagne, j'habite dans une petite commune de Longe, on est 900 habitants.
Dans le Rhône.
Dans le Rhône, vous voulez qu'on fasse comment? Moi, j'ai essayé de lancer des manifestations, des mobilisations par Facebook, par les réseaux sociaux, etc. Les gens font que se plaindre sur les réseaux sociaux, mais par contre, il faut lâcher le clavier. Et il faut sortir dans la rue, il n'y a plus personne.
Bravo Emmanuel.
Il n'y a plus personne. On était voir notre député, on était 10 devant sa
comment ça permanence. S'appelle
ça, permanence. Ouais. Alors notre député fugite, il est très gentil, il nous écoute, il y a pas de souci, mais lui il a dit qu'il était pour un chèque. Moi je suis pas forcément pour les chèques. Moi je serais pour une baisse de la TVA déjà temporaire. Voilà, vraiment pour aider parce que c'est vraiment un coup dur avec cette guerre. Pour qu'on ait un poil d'air, c'est pas vivre, c'est survivre.
Mais vous savez, Emmanuel, là, votre colère là, puisqu'on me dit que là, au standard justement, des Emmanuels, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont d'appeler. Mais justement, on va continuer la discussion, Emmanuel, et je vous conseille de rester à l'écoute des GG, des grandes gueules là sur RMC, RMC Story, parce qu'on va voir Pierre qui est paysagiste dans les Vosges. Lui aussi qui regarde, qui constate et qui se trouve dans la panade. Et puis on a Christophe, je sais pas si vous venez, Christophe, c'était ce patron d'entreprise de camions du côté de Roissy qui avait poussé un sacré coup de gueule dans les GG au moment où le carburant commençait à monter. Puis là, il a fait ses comptes, ça lui fait mettre 16 000 € en plus pour l'addition, pour le plein de ces camions. Et à côté de ça, faut rester compétitif. Donc c'est la compétitivité ou la clé sous la porte. Bref, le gouvernement tient bon, pas de ristourne parce qu'il joue la montre en se disant il y a un moment, peut-être que Trump et les Iraniens vont quand même se mettre d'accord. Là, il y a un cessez-le-feu, mais ça va peut-être continuer de baisser. Sauf que la tension dans le détroit d'Ormuz fait remonter le prix du baril, resté avec de pétrole, le baril de pétrole ou le baril de pétrole. À tout de suite avec les grandes gueules, il est bien.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Two, three, 10h25, le prix du carburant qui reste haut, puisque en moyenne, comme le rappelait Olivier, là, sur les derniers jours, ça n'a baissé que de 1 centime. Et la tension dans le détroit d'Ormuz fait que on reste à un niveau bien évidemment toujours très haut. Est-ce que le gouvernement va pouvoir tenir longtemps? Est-ce qu'il va devoir faire un geste? Pierre veut en parler avec nous, il est dans les Vosges, il est paysagiste. Bonjour Pierre.
Bonjour. Bonjour.
Comment ça se passe pour vous alors Pierre?
J'ai même plus envie d'y penser. Donc là je suis paysagiste, je suis dans ma deuxième année. Ça se passe super bien, hein. Il y a du boulot, enfin les clients sont contents, jusque là tout va bien. Mais quand on voit la prune qu'on prend sur la hausse des carburants, mais on se fout de la gueule du monde. On veut quoi? On veut que toutes les entreprises crèvent en France ou quoi?
Peut-être qu'on veut aussi qu'elles travaillent plus au noir en fait. Voilà, que vous travaillez de la main à la main. Voilà.
Merci, bah oui. Parce que franchement, quand on voit donc ce que je perds par mois, rien que pour le carburant, donc sans compter les produits consommables, celui des débroussailleuses, tout ça, c'est simple, je perds 1 210 € par mois.
Oui.
Hein, j'ai un pick-up pour aller sur mes chantiers, c'est 560 € de gasoil par mois. Le GNR pour ma tondeuse, c'est 480 € par mois, hors taxe. En essence, je suis à 190 € hors taxe par mois. Et je suis une petite entreprise, hein. J'ai fait 82 000 de chiffre d'affaires. Là-dessus, ils vont me prendre 56% de charge, 19,6% de MSA. Et là-dessus, je vais me reprendre encore un impôt sur les sociétés entre 10 et 15%. Sans déconner. Je savais en m'installant que ça allait être dur. Je le savais parce que mon père, ça fait plus de 40 ans qu'il est à son compte. Je le savais que ça allait être dur. Mais là, comme ça, et nous faire enfler comme ça, mais c'est plus possible. Ils veulent quoi? Ils veulent que toutes les petites entreprises, toutes les petites mains, tous les jeunes qui essayent de se mettre à leur compte, de bosser, de créer de la richesse dans ce pays, ils veulent quoi? Ils veulent qu'on arrête tous et puis qu'on fasse tous les feignasses.
C'est-à-dire qu'en plus, Pierre, j'imagine que vous ne pouvez pas monter le prix de vos prestations.
Je peux pas parce que c'est tous des contrats qui ont été signés en hiver.
Exactement. Ah oui, c'est là, toujours comme ça. Y compris dans les copropriétés, etc. C'est des contrats qu'on signe et qu'on renouvelle chaque année. Maintenant, peut-être qu'il faut que vous trouviez des nouveaux clients et que vous vous arrangiez autrement pour travailler. Mais moi, je suis désolée. On va pas inciter au travail au noir, mais en même temps, il y a un moment, faut que vous arriviez à vivre.
Le problème, alors, c'est si vous allez voir de nouveaux clients, vous allez leur dire, vous allez leur mettre un tarif plus élevé. Vous n'êtes même plus compétitif avec les autres.
Ah bah ça c'est sûr.
Mais souvenez-vous,
vous restez à la maison et puis le travail ne se fait pas. Vous avez du matériel qui dort, qui vous coûte des sous pour rien quoi.
Oui mais Pierre, pardon, mais tout ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que le gouvernement ne s'est pas mis dans une position d'avoir de l'argent disponible en cas de coup dur, en cas de crise, pour essayer d'aider certains Français. Ce que font les Allemands, les Italiens ou les Espagnols. Quand on a discuté du budget, souvenez-vous, on l'avait dit, c'est-à-dire qu'espérons qu'il n'y ait pas de crise en France en 2026, parce qu'avec le budget qu'ils sont en train de préparer, il n'y a aucune marge de manœuvre. Ils ont voulu suspendre la réforme des retraites pour ne pas être censurés par la gauche. Ils ont renoncé à faire des économies sur des choses, sur l'indexion, des pensions de retraite, etc. Donc ils ont enlevé tout ce qui fâchait. Donc ils ont voté un budget déficitaire qui ne va pas dans le bon sens, on le sait, et qui n'a aucune marge de manœuvre. Et donc là, quelques mois après guerre au Moyen-Orient, sûr que le cornu il pensait pas qu'il allait avoir une guerre au Moyen-Orient, mais gouverner c'est prévoir, et on se retrouve dans la mouise parce que il y a pas d'argent, il y a rien quoi, il y a pas un bas de laine comme on dit.
Mais quand on voit ce que toutes les entreprises en France payent comme charge, où ça va?
Je suis d'accord avec vous. Ça va
sur ceux dont vous parliez. Alors ça va aux retraites, tout ça. Et puis ça va à ceux dont vous parliez. Ils veulent qu'on reste chez nous à faire les feignasses. Je pense que ça va aussi là.
Pierre, on a sachant que on a un premier trimestre 2026 qui est un niveau record pour les faillites d'entreprises.
Ouais.
Pas pour les structures de plus de 150 non, à 200 salariés.
Les petites entreprises,
voilà,
ouais.
C'est pour les petites entreprises qui vont de 10 jusqu'à 50 salariés. Ouais. On est à un niveau record et la perspective deuxième trimestre n'est guère encourageante.
Mais, oui, mais parallèlement, on n'a jamais emprunté aussi haut sur les marchés pour faire fonctionner notre pays, puisque chaque mois, on emprunte et on paye les intérêts de la dette. On ne paye même pas le remboursement de la dette, on paye simplement le remboursement des intérêts. Et les taux d'emprunt ne cessent d'augmenter. On est dans une situation terrible. En fait, je crois que personne ne s'en rend compte.
Et on ne baisse pas le train
personne
de vie de l'État.
On a Michel qui est des nôtres, Michel, dans
c'est
les
Vosges.
Je remercie
en moins pour
Pierre,
les anciens premiers ministres qui vont
Pierre
changer
qui
quoi que ce soit.
Qui est dans les Vosges. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour.
Transporteur, Michel.
C'est ça.
Vous, la note, elle s'est envolée de combien alors?
Ben moi, j'ai un réservoir qui était 100 litres et avant, je payais, j'ai pris 50 centimes sur le prix du gazole par litre. Mais moi, mon gros souci, c'est que depuis 3 semaines, les médias annoncent à la télé, à la radio, une aide de l'État de 70 millions d'euros pour les transporteurs. Ok. Moi, depuis 3 semaines, ma comptable, je cherche une solution pour avoir cette aide de 20 centimes par litre.
Et vous n'obtenez pas de réponse pour le moment.
Ben non, il n'y a aucun guichet ouvert. Il n'y a rien du tout.
Donc, c'était le guichet. C'est le guichet pour les médias. C'était pas le guichet pour les vrais gens de
je
la vraie vie.
Ils ont annoncé une date à mi-avril.
Il n'y a aucune aide. Du coup, moi, j'ai appelé la FNTR.
Oui.
Parce qu'ils ont arrêté la grève. J'ai dit, vous avez arrêté la grève, personne ne touche des sous. Donc ils n'ont pas su me répondre. Du coup, hier, en désespoir de cause, j'ai appelé le ministère des Transports à Paris. Carrément.
Ça
je leur ai dit, voilà, la solution pour avoir ces 20 centimes d'aide. Le monsieur m'a dit, vous connaissez la com en politique? Ben, je dis oui, ben voilà, c'est que de la com. Donc il n'y a rien pour l'instant, il n'y a aucune aide.
Voilà,
il n'y a aucune aide. Moi, je fais entre 100 000 et 120 000 km par an.
Combien vous avez de camions, Michael?
Moi, je suis artisan, je suis en 3 tonnes 5, j'ai un 20 mètres cubes à Lyon.
D'accord.
Je travaille seul depuis 1992.
D'accord. Et c'est pareil, vous ne pouvez pas répercuter la hausse des carburants sur vos tarifs, quoi, en fait.
Ben non, parce que moi, j'ai de la concurrence polonaise aussi. Donc, si j'ai moins de tarifs, ben, je passe pas, quoi.
Est-ce que, du coup, ça vous met en difficulté, en péril dans votre activité?
Ben, je prends plus de 50 euros sur un plein à chaque fois. Je fais un plein par jour minimum. Et demain, je fais 2 pleins demain sur ma journée.
Moi, franchement, auditeur.
Donc, déjà, moi, je prends plus les autoroutes parce que les autoroutes, je suis en classe 3, ça coûte trop cher. Le restaurant, j'évite. Donc, après les économies, on peut plus tirer sur,
Michael, on entend vos difficultés.
Émission après émission, auditeur après auditeur. Moi, je trouve que franchement, c'est un crève-cœur. On a détruit ce pays magnifique. Un pays magnifique, des gens qui ont envie de travailler, des gens qui avaient de l'inventivité. Ils ont tué tout cet esprit français, tout part complètement en vrille. Et on vous dit, mais non, c'est un sentiment. C'est le sentiment de déclin. C'est le sentiment d'insécurité. On n'a pas arrêté de nous dire qu'on se trompait. Mais quand vous écoutez vraiment les Français, mais qu'ils écoutent vraiment les Français, qu'ils ouvrent les grandes gueules, qu'ils ouvrent d'autres émissions, qu'ils écoutent le cri de douleur de la France. Ils ne comprennent rien.
Loïc, bonjour Loïc.
C'est incroyable.
Vous avez entendu Michael, là, qui travaille tout seul et qui est dans la difficulté. Vous êtes aussi dans le secteur routier. Et où vous en êtes, vous, alors, dans les difficultés?
Ah bah là, on en est que rouler, ça devient quasiment impossible en fait. Moi, je suis en train de me demander si je vais bosser toute la semaine, si comment je vais faire pour mettre du gazole. On roule à perte en fait.
Qu'est-ce que vous transportez?
De tout, marchandises générales.
D'accord. Et vous, ça vous perdez combien alors? Vous avez fait vos calculs?
Eh bah là, au mois de mars, j'ai perdu un peu plus de 4000 euros quoi.
Et vous allez pouvoir continuer votre activité à ce rythme-là?
Ah bah sur rythme là non, ça va pas être possible hein. C'est moi, si ça reste comme ça d'ici un mois, 2 mois grand max, ça sera terminé hein, ça sera plus possible hein. On essaye de tirer sur toutes les petites économies, on évite les péages, on évite un peu tout machin, mais enfin c'est impossible.
Et quand le gouvernement vous dit tenez bon?
Pardon?
Le gouvernement, en gros, sa réponse est de dire tenez bon, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça. Tenez bon, baisser. Allez faire un prêt à 3,80%.
Oui, alors il y a les prêts flash carburant aussi.
Alors il y a eu beaucoup de demandes, ça va.
Il paraît que ça marche bien, le prêt flash carburant.
Ouais, bah moi, je sais pas les gens comment ils font, parce que, enfin, moi-même en faisant mes calculs, aller faire un prêt pour payer du gasoil et des taxes, enfin, je vois pas.
Oui, ça, c'est assez. Le gouvernement a inventé le prêt pour qu'on puisse emprunter de l'argent pour payer des taxes. C'est magnifique.
Mentalité, c'est incroyable.
Non mais
c'est incroyable.
On en est là.
Pays de losers.
De la folie et personne ne dit rien. Personne ne fait rien. Moi, je comprends pas tous les gros groupes de transport comment ils font.
Ils ont un peu râlé au début, souvenez-vous les transporteurs, il y a eu quelques opérations escargot et autres, mais ça s'est vite calmé quand même.
Mais tout le monde, même les agriculteurs, tout le monde est vite rentré.
Le problème, c'est que les agriculteurs, c'est pas la bonne période, parce que là ils sont dans les champs, ils travaillent.
Mais là, tout le monde espère que du jour au lendemain, ça rebaisse. Et donc, tout le monde est un peu dans l'expectative, en attendant chaque jour.
Oui, mais c'est le pari de l'économie.
Et c'est le pari du gouvernement aussi, hein.
Ouais. Merci et à Mickaël et à Loïc d'avoir été avec nous. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est tenez bon courage. Le seul pays à ne pas faire de ristourne, la France, est-ce que vous trouvez ça scandaleux, oui ou non? On va voir, vous dites oui à 85%. 11h25, avec Abel Bouilly, avec Antoine Diers et avec Barbara Lefebvre. C'est encore vos arguments que l'on va écouter au 32-16 en direct sur RMC, RMC Story dans un instant, avec cette idée peut-être d'installer des caméras dans les écoles pour éviter de nouvelles affaires de périscolaires. Qu'est-ce que vous en dites, 32-16 donc.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Chez les Grandes Gueules, Antoine Diers, Abel Bouilly, Barbara Lefebvre, vous intervenez au 32-16 en direct sur RMC et RMC Story. Là, notamment, on va parler de la surveillance dans les établissements scolaires. Surveillance avec des caméras. En fait, c'est pour lutter contre les violences dans le périscolaire. C'est le groupe d'opposition à Emmanuel Grégoire à Paris, donc le groupe emmené par Rachida Dati, qui va proposer d'installer des caméras de vidéosurveillance. Écoutez le témoignage d'une maman qui a été confrontée à cette violence du périscolaire.
Ma fille rentre un soir de l'école, sur le trajet, elle s'arrête, son visage se ferme, et elle me parle d'un animateur qui n'arrête pas de lui dire qu'il l'aime bien, que ça la rend triste et qu'elle ne veut plus qu'il vienne me parler. Mmh. Et c'est là que ma fille me dit que l'animateur s'est assis à côté d'elle dans le préau, qu'il lui a demandé s'il pouvait lui toucher le genou, qu'elle a dit non, qu'il l'a quand même fait, et elle m'a montré le geste. Il est remonté sur la cuisse, il est passé au-dessus de son sexe, il est redescendu, et elle lui a demandé d'arrêter, il n'a pas arrêté, et elle m'a dit aussi, quelques jours plus tard, qu'il lui avait soulevé le t-shirt pour lui toucher le nombril, et qu'il lui avait demandé s'il pouvait lui montrer son sexe, et qu'elle avait dit non.
Et c'est là,
du coup, que j'ai porté plainte.
Témoignage ce matin recueilli... auprès d'une maman, donc, dans la matinale d'Apolline de Malherbe sur RMC.
C'est témoignage fort, d'autant plus que cette maman, qui s'appelle Sarah, expliquait que le discours de sa fille a été totalement minimisé par les autorités.
Comme d'habitude.
C'est le scandale dans le scandale. Depuis début 2026, à Paris, 78 agents ont été suspendus, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles dans les écoles. C'est fait très grave. Et puis, le fait qu'on les minimise on les a minimisés pendant trop longtemps. Alors le nouveau maire, Emmanuel Grégoire, a promis de tout changer. Il a d'ailleurs reçu des parents de victimes. Il a promis un plan de 20 millions d'euros. Il a expliqué qu'il fallait mieux former les animateurs. Donc il a prévu également de mettre en place une cellule d'écoute directement accessible, simplifier la chaîne de signalement, etc. Enfin, tout ça ne prémunit pas d'agression. Ça n'empêche pas les agressions. Alors, la droite parisienne va plus loin en disant mais mettons des caméras puisqu'on n'arrive pas à bien surveiller ce que font ces animateurs dans le périscolaire. Eh bien la meilleure des surveillances, c'est les caméras. Ces animateurs seront qui sont filmés. Ouais. Donc déjà voilà. Et puis ça permettra d'avoir tout de suite de savoir ce qui se passe, parce que le problème c'est la parole, le recueil de la parole des enfants. Toi, des enfants de 3-4 ans, c'est pas toujours simple. Mais là au moins avec les caméras, on verra tout. Est-ce que vous êtes favorable?
La droite parisienne, il ne faut surtout pas qu'elle fasse le corps Coq sur le sujet, parce que cette proposition, c'est une proposition de parents dont les enfants ont été abusés. Ça, il faut le rappeler. J'aimerais juste partager un petit truc, deux secondes. Il y a pas très longtemps, j'ai une amie policière qui me parle d'un cas. Elle reçoit au commissariat des parents qui viennent avec le pull de leur fille, sur lequel, excusez-moi l'expression, il y avait le sperme d'un animateur. Que s'était-il passé dans la journée? Tu sais, le fameux jeu du goût qu'on fait avec les enfants, on bande les yeux des enfants, et on est censé, on met du Nutella sur une cuillère, on teste le sucré
salé. Je crois que je vais pas avoir envie que tu racontes l'histoire.
Et voilà, donc, et lui, effectivement, c'est pas une cuillère, vous imaginez bien ce qu'il a mis dans la bouche de l'enfant et comment il s'est fini sur l'enfant. Et quand cette policière me raconte ça, les larmes aux yeux, et qu'elle me parle de la dignité des parents, ça fracasse une famille, en fait. Donc, a priori, la question du périscolaire est en discussion ce matin au Conseil de Paris.
Oui, c'est le premier Conseil de Paris du nouveau maire.
Exactement. Donc, c'est en discussion. Je pense que les caméras, ce n'est pas une chose qu'il faut banaliser, parce que c'est une proposition issue du désespoir des parents en réalité. Moi, je suis pour aussi le fait qu'il n'y ait pas un seul animateur avec un groupe d'enfants, qu'il soit, minimum deux. Et aussi, je suis désolé, même si la pédocriminalité féminine, elle existe, ce sont plus les hommes qui agressent ces enfants. C'est une réalité. Et pas que sur Paris. On a des cas. Moi-même, j'ai des cas qui viennent de toute la France. Donc aussi, peut-être plus de femmes, ou alors un binôme homme-femme. Et avec, oui, une caméra ou un téléphone portable, si on nous sort l'excuse du manque de moyens. Mais il ne faut plus. Il y a même des parents qui ont proposé des sortes de boîtes noires. Alors, comment est-ce que ça se manifeste concrètement? Je ne sais pas, mais oui, je pense qu'il faut que toutes ces sessions soient filmées, parce que sinon, on n'y arrivera pas, parce que ce qu'on réalise pas. Là, il y a le scandale explose depuis quelques mois. Les premiers signalements des parents datent d'il y a 10-15 ans, et ce réseau est bien installé dans les écoles, ils se cooptent, on le sait, c'est pas un truc de complotiste, faut voir les discussions sur le darknet ou autre, ils savent là où il y a des failles, que ce soit à Paris, en banlieue ou en province. Donc ça va mettre du temps. Maintenant, quand on parle de la question de la formation, et je finirai mon propos dessus. C'est une foutaise dire on va mieux former les animateurs. C'est pas écrit sur le front j'aime les enfants. Parce que tu as des pédocriminels et des pédophiles abstinents. L'abstinent, il a des pulsions, il n'est jamais à l'acte, il n'est jamais passé à l'acte, il consomme du contenu pédopornographique, mais il a l'air tout gentil, c'est un monsieur tout le monde. Donc quelqu'un peut passer une excellente formation, n'être inscrit sur aucun fichier et ensuite manifester des actes pédocriminels. Donc il faut que ces sessions de périscolaire, je suis dit oui, il faut qu'elles soient filmées, faut qu'elles soient mieux surveillées.
Ou alors les réduire, parce que il faut préciser aussi qu'à Paris, il faut préciser qu'à Paris, on est sur des rythmes scolaires un peu particuliers qui avaient été décidés à l'époque par Vincent Payon,
oui,
ancien ministre de l'Éducation nationale.
Qui déjà était qualifié de débile.
Donc il y a beaucoup de périscolaires, mais il y en a trop, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, ils n'arrivent pas à recruter de bons animateurs. Donc l'une des propositions, c'est aussi d'arrêter tout ce périscolaire, de revenir à des horaires plus classiques qui existent ailleurs en France.
Périscolaire? Pensez aussi aux centres de loisirs.
Bien sûr.
Parce que moi, je vais vous dire, là, on est focalisé le périscolaire parisien, etc. Ouais. Le centre de loisirs, etc.
Le milieu sportif, les clubs, il y a des scandales aussi.
Est-ce qu'on se rend bien compte? Parce que le problème sur la question de la pédocriminalité, c'est que pendant longtemps, parce que c'est vrai que dans ce monde de la pédocriminalité, vous avez aussi des gens qui sont un peu complotistes, qui voient des pédocriminels partout, et puis qui font des liens avec plein de choses, etc. Ce qui fait que ça a brouillé un peu. Mais les pédocriminels ont profité justement de cette ambiance un peu étrange autour d'un certain courant complotiste qui voit des pédophiles partout. Parce que ça, c'est vrai aussi. Hein, il y en a, je vais vous dire, toutes les 5 minutes, quand vous savez pas de quoi traiter quelqu'un ou l'insulter, vous le traitez de pédocriminel. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça a servi de niche pour que les vrais pédocriminels continuent d'agresser les enfants. Et je le répète ici, il y a même trois catégories de populations fragiles dans notre société dont on se fout complètement de la parole. Les enfants, les personnes âgées, évidemment ceux qui sont encore plus silencieux que tous, les animaux. Parce que je l'ai déjà dit ici, dans les familles, par exemple, où il y a des violences sexuelles intrafamiliales, on s'est rendu compte, et c'est des études de la gendarmerie, c'est des études qui ont été faites, il y a aussi de la
maltraitance animale.
Pornographie. Voilà. Ouais. Donc, la situation est gravissime, gravissime. Ces gens-là, bon, moi, je ne suis pas persuadée sur la question de la télésurveillance, parce que les images, c'est 72 heures. vous les gardez en stock. Si l'enfant il parle une semaine après, un mois après, etc. Qu'est-ce qu'on va, on pourra même pas les retrouver les images. Ouais. Donc bien sûr, ça sera peut-être dissuasif pour certains parce qu'ils se savent filmer.
Ou alors ils iront
pourquoi
se planquer.
Pas. Mais ils peuvent aller se planquer. Il y a toujours un endroit dans une école où tu peux te planquer. Et surtout, comme tu l'as dit, c'est un réseau. Donc même si tu les mets en binôme, va savoir qu'il y en a pas un qui va embrouiller l'autre. Moi, je dis que là, on est devant un problème gravissime dont la puissance publique ne prend pas la mesure. Vous entendez même le ministère de l'Éducation nationale, la ministre de la Famille, la ministre des Affaires sociales, on n'entend rien.
Mais non, parce qu'on exagère.
On a eu 78 suspensions au total, 78 personnes suspendues.
Elles sont où, ces 78 personnes? Je crois qu'elles, par contre, pas la différence de Lafarge ou de Sarkozy, il n'y en a pas un qui est en tôle pour l'instant. Il n'y en a pas un qui est en tôle. Et rappelez-moi, c'est quoi le suivi?
Certains ont même été mutés.
J'aimerais connaître le suivi de l'infirmière.
Avec la complicité des cabinets de mairie.
J'aimerais connaître le suivi judiciaire de l'infirmière et de son mec qui lui faisait filmer des agressions sur des nourrissons. Ouais. C'est quoi le suivi de ces gens-là? Ils sont tous en contrôle judiciaire. Ils sont tous dehors. Mais par contre, on va foutre en tôle un vieux dirigeant de Lafarge. C'est peut-être grave qu'il a fait.
De 70 ans, ouais.
Mais voilà. Mais les pédocriminels, les 78, là, il faut qu'ils soient en tôle. Et puis, je les mets en tôle, en cellule groupée.
Ah oui.
Avec d'autres collègues. Et que je dis bien, et je dis bien aux autres détenus pourquoi ils sont là.
Et dans une cellule iranienne, c'est ça?
Mathieu, bonjour.
Mais dans une cellule où on leur dit bien pourquoi ils sont là,
bonjour,
ces deux-là.
Mathieu,
et là,
qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Est-ce qu'on a besoin d'installer des caméras, là?
C'est tout.
Bonjour, je pense pas, parce que pour moi le problème vient plutôt du recrutement, parce qu'en tant que responsable périscolaire, moi j'ai accès au CV des candidats, j'ai accès également à leur casier judiciaire, et du coup l'extrait B3, celui où les condamnations plutôt sont marquées pour tout ce qui concerne les enfants, les fichiers d'infraction sexuelle, pardon. Et je pense que il faut responsabiliser déjà et traquer ceux qui font n'importe quoi en tant que responsable. Je m'explique, c'est-à-dire que moi j'ai accès, enfin je peux voir ce que font mes animateurs sur le terrain, je les flippe pas, mais disons que s'il y en a un qui fait n'importe quoi, déjà je me remettrai en question puisque le recrutement j'en suis en charge, et ensuite je l'accompagnerai pour...
Oui mais c'est pas faire n'importe quoi. Oui, c'est toucher des enfants. Donc ça, à quel moment est-ce que vous pouvez arriver à avoir un signalement, un indice? Voyez, c'est ça qui est compliqué, Mathieu.
Déjà, il faut écouter les enfants, il faut essayer d'avoir l'œil un peu partout, effectivement, éviter les angles morts, et avec des caméras, il y en aura toujours, hein, j'entendais vos intervenants en parler, il y en aura toujours des angles morts avec des caméras, et ensuite, il y a la question du droit à l'image aussi, où là, c'est un peu particulier. Ouais. Et effectivement, il faut d'abord s'assurer que les candidats soient pas condamnés ou n'aient pas de mauvaises intentions.
Alors peut-être
Mathieu, il y a des pédophiles.
Comme vous le disiez, un meilleur profilage.
Le problème, Mathieu, c'est le pédophile et c'est pas marqué sur son CV qu'il est pédophile.
Tous les pédophiles ne sont pas inscrits dans les fichiers.
Et pardon, il y a autre chose, c'est que on soupçonne à la mairie de Paris qu'il y ait eu même des réseaux qui se soient refilés l'information, organisés sur des boucles Telegram. Tu peux facilement te faire embaucher dans le périscolaire parisien. Parce qu'on pouvait se faire embaucher dans la journée. On jouait face à des enfants. Immédiatement.
Antoine.
Mais ça, pardon, je suis désolé, mais on découvre pas ça, qu'il y a un problème. Parce que j'entends Monsieur Grégoire nous dire, oui, je vais créer une école du périscolaire pour une meilleure formation. Enfin, ça fait quand même des années que le périscolaire existe avec ses nouveaux rythmes scolaires. C'est depuis 2015. Donc, pourquoi
Monsieur Grégoire, qui est une victime de pédocriminalité dans le cadre du périscolaire
lui-même. Oui, mais ça n'excuse en rien sur son incompétence.
Ça n'excuse pas, au contraire.
Ça n'excuse en rien sur son incompétence, sa facilité. C'est peut-être le terme. Le bon terme, c'est la passivité.
Je partage beaucoup de ce qui a été dit.
Si on avait parlé d'Audrey Pulvin, vous avez parlé de dysfonctionnement, ce qui avait provoqué la colère de Laura Barton-Martinez. Dysfonctionnement.
Ouais, alors je partage beaucoup de ce qui a été dit et je pense qu'on est encore monté trop petit bras, quoi. On y va trop petit bras, on est monté trop fin sur les solutions qu'on propose. Des caméras dans les écoles, dans les espaces de périscolaires qui seraient fixes, mais évidemment qu'il y aurait des angles morts qui les éviteraient. Moi, plus j'y réfléchis, plus je pense qu'on doit avoir la mise en place d'un véritable service de traque de ces gens-là, qui puissent poser des micros et des caméras temporaires dans des endroits où personne ne sait qu'ils soient là, et que l'ensemble des animateurs périscolaires puissent se dire à tout moment, je peux être vu et entendu. je ne sais pas où, mais à tout moment, par un directeur, l'auditeur nous le disait, mais également par des pièces sonorisées, des caméras posées là temporairement. Alors évidemment, tout le monde va me dire, mais non Antoine, là tu dépasses les bornes, c'est évidemment impossible, c'est pas de l'espionnage. Ben, je pense que si, vu la gravité des faits, faut qu'on aille jusque là, et je pense surtout à tous les parents, à Paris ou ailleurs, qui n'ont d'autre choix que de confier leurs enfants à ce type de structure, et qui le font la mort dans l'âme. Voilà.
Donc c'est ou, ou la peur au ventre. Voilà. Et la peur au ventre. Oui, merci puis, à Mathieu d'avoir été avec nous.
Et moi, je comprends les parents. Oui, je comprends les parents aussi qui, quand ils ont des assistantes maternelles qui viennent à leur domicile, on puisse mettre des dictaphones. Je suis désolée, moi, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte dans une garde partagée qu'on avait une assistante maternelle qui maltraitait en quelque sorte verbalement et physiquement en les affamant nos enfants. Ça a duré 5 mois et je peux vous dire qu'elle s'est fait virer manu militari.
Allez, à tout de suite pour la troisième heure des GG.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.